Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez La Justice des Enfants sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Fleur Neskovic, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de 6e 3 du collège Lavoisier. Nous sommes en direct du 93.9 FM et nous allons vous parler du point de vue des enfants sur la justice. Pour en parler, nous écouterons Rabbi Rafa Kamenga qui nous présentera sa chronique. Nous accueillerons ensuite Anne-Cécile Hott qui va répondre aux questions de Rima Degman, la journaliste. C'est parti pour La Justice des Enfants. Notre chroniqueur Rabbi Rafa s'installe en studio. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'injustice à l'école.
Bonjour, je m'appelle Rabbi, je vais vous parler de l'injustice. Par exemple, le racisme, pour moi, c'est de l'injustice comme l'homophobie. En plus, c'est interdit par la loi. En troisième, les heures de colle. Les heures de colle, c'est de l'injustice car les enfants ont des choses à faire comme les activités extrascolaires, le foot, le basket, la danse et le ping-pong. Autre chose d'injuste, l'harcèlement. L'harcèlement peut être pour plusieurs raisons, la couleur de peau, la religion et d'où on vient. Merci pour vos oreilles et à bientôt.
Merci beaucoup, Rabbi.
De rien.
Moi, je trouve que parfois, c'est nécessaire, les heures de colle. Par exemple, quand on fait quelque chose de très grave, pour pas que la personne recommence ce qu'elle a fait, eh bien, les heures de colle, c'est fait pour remettre en place et pour rappeler que c'est pas, bah, que c'est pas bien ce qu'on a fait. Et toi, Rima, qu'en penses-tu ?
Ben moi, je suis d'accord avec Fleur sur le fait que ça recadre les enfants et aussi avec Rabbi parce qu'il n'en faut pas, tous les jours et ça peut stresser les élèves et les décourager.
Et vous, Anne-Cécile ?
Eh ben moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'enfants et de les interroger sur la justice et l'injustice. Et en fait, eux non plus, ils pensaient pas que toutes les punitions étaient forcément injustes. Ils étaient d'accord avec ce que vient de dire notamment Rima sur le fait que ça dépendait en fait de l'infraction qui avait été commise et que parfois la punition pouvait être juste. Par contre, ce qui importait pour eux, c'est que la sanction soit, on va dire, à la hauteur et proportionnée à la gravité de la faute. Donc, ils étaient plutôt d'accord avec vous sur le fait que ça dépendait des situations et des contextes.
Très bien, merci beaucoup Anne-Cécile et Rima. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest. On vient d'écouter My Enemy de Imagine Dragon. L'émission La Justice des Enfants continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Rima Degman. Vous recevez Anne-Cécile Hott. Vous allez nous parler de la justice et de l'injustice pour les enfants.
Bonjour, je suis Rima et aujourd'hui j'accueille Anne-Cécile. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Rima, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes géographe et vous travaillez sur la justice et l'injustice chez les enfants. En parlant de ce sujet, j'ai quelques questions à vous poser. La première est, quelles ont été vos études ? En parlant d'études, qu'est-ce qu'un doctorat ?
Très bien, merci beaucoup Rima pour vos questions. Alors moi j'ai fait, après le bac, j'ai fait d'abord des études littéraires pendant 3 ans dans un cursus qui s'appelle classe préparatoire, et ensuite j'ai été à l'université. Et à l'université, j'ai fait de la géographie, mais aussi de la sociologie, et comme vous l'avez dit, je suis à la fois géographe et aussi un petit peu sociologue. Et vous me demandez ce que c'est qu'un doctorat, c'est parce qu'effectivement, à la fin de mes études, j'ai eu un diplôme qui s'appelle le doctorat. On dit aussi parfois que j'ai fait une thèse, en l'occurrence de géographie. Et le doctorat, c'est le diplôme le plus haut qu'on peut avoir à l'université. Vous voyez, vous êtes au collège, donc après, à la fin du collège, vous allez avoir un diplôme, c'est le brevet. À la fin du lycée, on peut avoir le bac, et ensuite, à l'université, au bout de 3 ans, on peut avoir une licence, au bout de 5 ans, on peut avoir un master, et au bout de 8 ans, on peut avoir un doctorat, et c'est ce que j'ai fait.
J'ai une autre question pour vous, qui est la suivante. C'est qui vous a donné l'envie de faire ce métier ?
Alors, très bonne question. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais moi, je veux un peu faire de la recherche à l'université depuis que je suis petite. Je voulais déjà faire ça à l'école primaire, mais c'était pas encore en géographie ou en sociologie, parce que je savais pas encore trop ce que c'était, mais c'était en histoire. Parce que j'étais passionnée d'histoire, moi, quand j'étais petite, et notamment d'Égypte ancienne. Et je lisais pas mal de documentaires, même de romans historiques, etc. Et je voyais aussi des reportages. Et dans ces reportages, je voyais des historiens qui étaient chercheurs à l'université et qui parlaient de leur métier, qui parlaient de leur sujet de prédilection. Et ça me passionnait beaucoup. Et c'est là que je me suis dit que je voudrais bien faire de la recherche aussi plus tard quand je serai grande.
D'accord. Et une quatrième question pour vous qui est, que faites-vous plus précisément avec les enfants dans les écoles ?
Parce qu'effectivement, ce que vous savez peut-être pas, mais c'est que moi, je me suis spécialisée en géographie et en sociologie sur la recherche auprès d'enfants. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les enfants pensent, ce que les enfants font et pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça et pourquoi ils font ça. Et du coup, je fais de la recherche et des enquêtes dans des écoles, surtout dans des écoles primaires. Et en ce moment, je travaille dans des écoles primaires au sein d'un projet collectif qui s'intéresse à ce que les enfants trouvent juste et injuste. Et le projet, il s'appelle C'est pas juste, comme dans la bande dessinée Titeuf, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui dit ça. Et du coup, voilà, on s'intéresse à ce que trouvent les enfants juste et injuste.
Une autre et dernière question pour vous qui est, comment les élèves ressentent le fait que ça ne soit pas eux qui fassent le règlement intérieur de leur établissement ?
Ben vous faites bien de préciser ça, parce qu'effectivement, alors, la justice et l'injustice, c'est beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants que j'ai rencontrés. C'est parfois des choses très générales, hein, sur des injustices qui se passent dans le monde, par exemple le réchauffement climatique, le racisme, les inégalités entre les femmes et les hommes, etc. Mais ce sont aussi des choses qui les concernent dans leur vie à eux quotidienne. Alors parfois dans la vie quotidienne de tous les enfants, par exemple, de devoir toujours respecter ce que choisissent les adultes à leur place, mais aussi parfois au sein de l'école. Donc, il peut s'agir de questions sur le fait qu'effectivement, ils n'ont pas forcément le droit et leur mot à dire sur le règlement intérieur, sur ce qui se passe au périscolaire, sur ce qui se passe dans les classes, etc. Et parfois, effectivement, ils pointent du doigt auprès de moi le fait qu'ils aimeraient bien que ça change. Et j'ai par exemple, dès l'école primaire, des enfants qui aimeraient bien que se mettent en place dans leurs écoles des systèmes de délégués, par exemple. Parce que ça n'existe pas encore à l'école primaire, alors que ça existe souvent au collège, au lycée, etc., pour pouvoir justement avoir aussi leur voix qui compte, y compris au sein de l'école et possiblement, comme vous l'avez dit, pour la composition du règlement intérieur.
D'accord, merci beaucoup pour ces réponses précises.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci beaucoup à tous. C'est la fin de notre émission « La justice des enfants ». Merci donc à Rabi Rafa Kamenga, Anne-Cécile Hoth, Rima Degman. Merci à Lucas Brossard et Alexis Swan pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous et à toutes sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les enfants de la justice sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Mehdi, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de 6e 3 du collège Lavoisier de Pantin. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de la vie quotidienne des 6e 3. Au programme aujourd'hui pour en parler, nous écouterons une chronique de Zenabou sur le racisme à l'école. Nous accueillerons ensuite la chronique de Erin qui va nous parler de la cuisine. Nous finirons cette émission avec l'interview de la géographe Anne-Cécile Hotz. C'est parti pour les enfants de la justice.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nos chroniqueuses Zenabou et Erin s'installent en studio. Comment ça va ? Aujourd'hui, Zenabou, tu viens nous parler de racisme à l'école. À toi la parole.
Bonjour, je m'appelle Zenabou Diagana, 11 ans, et j'aimerais vous dire ce qu'est l'injustice pour moi. L'injustice, il y en a beaucoup, mais je vais aujourd'hui vous parler du racisme. Moi, à l'école, j'en entends toujours, même si je sais que c'est pour jouer, mais ce n'est pas pour jouer. Le racisme, parfois, les gens qui en souffrent n'osent pas le dire, mais ça leur fait très mal. Que tu sois jaune, vert, rouge, blanc ou noir, tu es humain, même que des profs ou des personnes sont embêtés, ridiculisés ou même traités différemment, car ils sont de couleur. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde pense que le racisme est que pour les gens de couleur noire, alors que tout le monde peut subir ça. Par exemple, avant dans ma classe, il y avait ce prof qui séparait les gens de couleur noire et blanc de chaque côté, ce qui veut dire que malgré que les personnes de couleur blanc et noir sont dans la même classe, ils ne parlèrent jamais ensemble, jusqu'à ce qu'une remplaçante remplaça mon prof et déplaça les places en les mélangeant. Tout le monde eut une bonne liaison entre les gens de couleur et les gens de non-couleur. Et je n'ai pas trop aimé l'organisation du prof. Puis encore une chose, c'est que parfois en classe, on ne nous laissait pas vraiment toucher Gaïa, notre lapin de compagnie. Mais les chouchoutes de la prof, eux, avaient le droit. Ça fait aussi partie de l'injustice. Je vous remercie de m'avoir écouté sur Radio Campus Paris de mon avis sur l'injustice.
Merci Zenabou. Maintenant, c'est l'heure de la chronique d'Erin.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Bonjour, je suis Erin, élève du collège Lavoisier à Pantin. Moi, je trouve ça super la cuisine parce que ça fait passer le temps et à la fin, on mange et c'est super bon. Je préfère tout ce qui est pâtisserie, comme les gâteaux, surtout les gâteaux aux pépites de chocolat que ma mère fait ou des cookies que j'ai adoré. Et en plus, c'était la première fois que je faisais ça chez moi, un délice. Je vous souhaite une bonne journée sur Radio Campus Paris. C'était Erin, des enfants de la justice.
Merci Erin. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. I'm not a psycho, but I might go crazy writing typos. They ask why so shaky, missing my code. All this pressure hitting my head. I'm on a tightrope, can't hit the high notes. Baby, I need ibuprofen. I know that you'll take me back home. Don't leave me alone, I need a friend. I don't care what you think of me. I just want to be on top. I'm not stressed that you've never heard. On vient d'écouter Migraine de Boy White Yuk. L'émission Les Enfants de la Justice continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Lindsay.
Bonjour, je m'appelle Lindsay, je suis en 6e 3, je voudrais vous poser des questions. Donc ma question est, qu'aimez-vous dans votre métier ?
Bonjour Lindsay, bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Anne-Cécile Hotz, je suis chercheuse en géographie et en sociologie et je suis ravie aujourd'hui d'être là pour répondre à vos questions sur la justice et l'injustice. Alors vous aimez savoir ce que j'aime particulièrement, c'est ça dans mon oui. métier. Alors moi ce que j'adore dans mon métier c'est le chemin vers lequel je me suis spécialisée, c'est-à-dire que je m'intéresse précisément aux enfants et je travaille avec les enfants sur différents thèmes et en ce moment c'est sur ce qu'ils pensent de la justice et de l'injustice. Et ce que j'adore dans mon métier c'est justement de pouvoir donner la parole aux enfants alors que souvent on les écoute pas trop, c'est-à-dire que dans la recherche, que ce soit en géographie ou en sociologie, souvent on s'intéresse à ce que les adultes font, à ce que les adultes pensent et les enfants finalement souvent ils sont un petit peu oubliés alors qu'en fait ils sont extrêmement importants à prendre en compte, déjà parce que c'est une part non négligeable de la population, ensuite parce qu'ils ont plein d'idées intéressantes et aussi parce que ce qu'on pense dans l'enfance, la recherche a montré que c'était extrêmement important aussi pour en fait placer, mettre en place des petites pièces sur ce qu'on penserait ou ce qu'on fera quand on sera adulte. Donc c'est une période très importante sur l'enfance à prendre en compte et ça j'adore ça dans mon métier de pouvoir donner la parole aux enfants, les écouter et avoir plein de leurs idées avec moi.
Merci. Et que faites-vous précisément dans l'école ?
Eh ben dans les écoles en ce moment dans lesquelles je mène des enquêtes, je m'intéresse donc à ce que les enfants trouvent juste et injuste. Et alors pour ça, il y a deux grands types de méthodes. Alors une première méthode, c'est que je passe beaucoup de temps dans l'école à observer la cour de récréation, les séances en classe, par exemple aussi les séances de sport ou les temps de périscolaire. Et je joue avec les enfants, etc. Et j'essaye d'observer, de noter quand est-ce que surviennent des situations justes ou injustes. Quand est-ce que les élèves se plaignent de situations qu'ils ont trouvées particulièrement injustes, etc. Mais j'ai aussi une deuxième sorte d'activité où là, je vais vraiment faire des activités avec les enfants pour les questionner sur ce qu'ils trouvent juste et injuste. Ça va par exemple être un dessin où je leur demande de dessiner une situation juste ou injuste pour eux. Ça va être des petits jeux où je les place dans des petites situations où ils doivent faire des choix. Par exemple, est-ce qu'on doit donner plus ou moins de bonbons à un élève qui a réussi son travail ou plus ou moins de bonbons à un élève qui a moins bien réussi ou pareil aux deux. Vous voyez, je les mets dans des petites situations où ils doivent faire des choix. Et sinon, on a aussi des débats en classe entière sur ce qu'ils trouvent injuste, sur les injustices pour eux à l'école, etc. Donc il y a plusieurs sortes d'activités que je mets en place avec eux pour qu'ils puissent donner leur point de vue sur la justice et l'injustice.
Puis, ma troisième question est comment améliorer la justice ?
Et ben justement, moi, je trouve que donner la parole aux enfants sur ce qu'ils vivent comme juste et injuste, et notamment dans les situations qui les concernent, c'est déjà un moyen d'améliorer les choses, parce qu'on donne la parole aussi aux principaux concernés. Et du coup, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de restituer toutes les idées qu'ont donné les enfants, d'en parler notamment avec les enseignants à l'école ou de les diffuser plus largement et pour qu'on puisse décider ensemble au cas par cas et selon les contextes ce qui peut être fait. Donc le dialogue avec tout le monde et surtout inclure les enfants dans ce dialogue-là, ça me paraît déjà une bonne solution pour pouvoir améliorer les choses et réduire un peu les situations d'injustice, notamment dans les écoles.
Et ma quatrième question est comment les élèves ressentent le fait que ce ne soit pas eux qui fassent les règlements ?
Les règlements de l'école ? Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question parce que sur le terrain que je pratique, les enfants, ils ont donné plein d'idées sur ce qu'ils trouvaient juste et injuste. Alors, il y a à la fois des choses très générales sur ce qui se passe dans le monde, par exemple, les inégalités entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes, le réchauffement climatique ou le racisme, mais ils ont aussi évoqué des choses beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus locales, et notamment ce qui se passait à l'école. Et c'est vrai qu'eux-mêmes, ils mettaient souvent en avant le fait qu'ils aimeraient plus avoir de place dans les décisions, notamment dans l'élaboration effectivement des règlements ou dans les choix des punitions ou dans les choix de ce qui pouvait se passer au périscolaire et à la cantine. Donc c'est vrai que parfois ils réagissent pas très bien au fait de ne pas pouvoir être inclus en tout cas dans les prises de décision et dans l'élaboration des règles de vie scolaire également. Donc il y en a qui ont notamment proposé, dès l'école primaire, parce que ça n'existe pas dans l'école où je suis, de mettre en place des petits systèmes de délégués par classe pour que la voix des élèves puisse aussi être prise en compte.
Et ma cinquième question est pourquoi les punitions d'avant ont changé ?
Alors ça, c'est vrai que vous avez raison de préciser que les punitions ont pas mal évolué avec le temps à l'école. Hein, et les enfants, d'ailleurs, ils s'en sont conscients aussi. Alors les auditeurs et auditrices pourront pas voir, mais j'ai amené avec moi notamment des petits dessins qui ont été réalisés par les enfants. Et il y a un élève, justement, ça va bien dans votre question, qui a dessiné à la fois une situation juste et injuste, et une situation injuste en 1919, où il a représenté l'école d'antan, où vous avez un maître qui oblige des élèves à porter un bonnet d'âne, il les humilie devant tout le monde en classe et vous voyez, il a un bâton, le maître en main, et en fait, les punitions sont des, ce qu'on appelle des châtiments corporels, c'est-à-dire que les enfants se font frapper, notamment avec une règle, le bout des doigts s'ils ne répondent pas. Et au contraire, il a représenté la situation juste qui représente, selon lui, la situation de l'école en 2024, où ces punitions corporelles sont complètement terminées et abolies et interdites, et où les punitions sont, selon lui, plus justes, hein, ça peut dépendre des maîtres et des maîtresses, mais en l'occurrence, des punitions qui peuvent consister à écrire un petit texte, etc., ou voire à appeler les parents, mais en tout cas, il n'y a plus ces punitions corporelles. Et c'est lié plus généralement au fait que dans la société, on ne considère plus les enfants de la même manière et qu'on essaye davantage de les protéger, et notamment en interdisant fermement toutes ces punitions physiques, corporelles, et le fait de faire mal aux enfants, à l'école en particulier.
Merci, à bientôt.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci à toutes et à tous. C'est la fin de notre émission Les Enfants de la Justice. Merci à Zenabou, Erin, Lindsay et à Anne-Cécile Hotz.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez La Conversation sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Samy-Rose Morel, votre présentatrice, et je vous amène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves du Collège Lavoisier de 6e 3. Nous sommes en direct sur 93.9 FM et nous allons parler de la justice et de l'injustice des enfants. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écoutons la chronique d'Habib Belkadi sur l'injustice. Nous accueillons ensuite Anne-Cécile Hotz. Nous finirons cette émission avec la chronique de Soani Vartin sur l'équitation. C'est parti pour la conversation.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Habib Belkadi s'installe en studio, comment ça va ? Aujourd'hui, tu viens de nous parler de l'injustice.
Je m'appelle Habib, je vais vous partager pour moi qu'est-ce l'injustice. C'est le déséquilibre entre nous tous, comme celui entre les hommes et femmes. Par exemple, encore aujourd'hui, les hommes sont mieux payés que les femmes. Et parfois, les adultes sont injustes envers les enfants. Et c'est ce que je vais vous raconter. J'étais à la piscine et on m'a poussé, deux élèves l'ont fait, c'est moi qui ai été sanctionnée parce que les élèves ont dit que je les avais insultés alors que c'était complètement faux. Je ne sais toujours pas pourquoi ils m'ont poussé. J'aurais aimé que les adultes aient assisté à la scène pour que je sois crue. Depuis avec ses élèves, on ne se parle plus. Si le problème avait été réglé par les adultes, peut-être que l'on aurait fait la paix. C'est pour ça que je trouve que la justice est importante.
Merci Habib. On revient dans un instant, juste après une petite pause musique.
Thank you.
vient d'écouter Thriller de Michael Jackson. L'émission La Conversation continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Maïssa Rodriguez.
Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir Anne-Cécile Haut, qui est géographe et sociologue. Merci d'être présente, je vais vous poser quelques questions.
Bonjour Maïssa, merci beaucoup.
Vous avez trouvé comment la chronique de Habib ?
Ah ben moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé d'entendre la chronique d'Habib qui a fait beaucoup écho à des choses que j'ai entendues aussi sur mes terrains de recherche, puisque moi, je m'intéresse effectivement à ce que les enfants trouvent juste et injuste. Et alors moi, j'ai plutôt fait des enquêtes dans des écoles primaires. Et en fait, dès l'école primaire, il y a pas mal de sujets qu'a abordé Habib qui ont aussi été abordés par les enfants que j'ai rencontrés. Alors notamment les questions effectivement d'inégalité que Habib a abordé entre les hommes et les femmes, mais aussi les questions de racisme, d'inégalité selon les couleurs de peau, par exemple. Ça, ce sont des questions qu'ont abordé les enfants, mais aussi des situations plus concrètes et plus quotidiennes à l'école ou dans les activités périscolaires. Habib parlait de la piscine. Effectivement, les enfants ont pointé du doigt le fait qu'ils trouvaient particulièrement injuste d'être parfois injustement punis à la place de quelqu'un d'autre, que ce soit à la place de leurs frères et leurs sœurs ou à la place de leurs camarades. Notamment, quand j'ai demandé à des enfants de dessiner quelque chose de juste ou quelque chose d'injuste, il y en a qui ont justement dessiné, se sont mis en scène à l'école où, par exemple, ils ont été injustement punis par la maîtresse qui a pensé qu'ils avaient, par exemple, frappé un camarade alors que c'était pas vrai. Donc il y a un fort sentiment parfois d'injustice quand ils sont punis à tort. Et c'est aussi des questions que j'ai retrouvées aussi sur les terrains. Donc ça m'a beaucoup intéressée d'entendre aussi cette chronique d'Habib.
Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est le métier sociologue ?
Oui, alors, et c'est effectivement tout à fait, j'ai dit que j'étais géographe et sociologue, mais je peux vous en dire plus sur ce dont il s'agit. Moi, en tant que sociologue, je fais de la recherche, je fais des enquêtes, en fait, sur comment fonctionne la société, sur ce que font les gens, sur ce que pensent les gens, et surtout aussi, pourquoi est-ce qu'ils vont penser telle ou telle chose, et pourquoi ils vont faire telle ou telle chose plutôt qu'une autre. Et moi, ma spécialité, au sein de ce métier de sociologue, c'est plus précisément de m'intéresser aux enfants. Donc parfois on dit que je suis sociologue des enfants, où je m'intéresse justement à ce que pensent les enfants, ce que font les enfants, et pourquoi est-ce qu'ils vont penser ou faire une chose plutôt qu'une autre. En l'occurrence, là, en ce moment, sur le sens de la justice et de l'injustice.
Que faites-vous directement avec les élèves ?
Alors, bonne question. Si je reprends l'exemple précis du sens de la justice et de l'injustice, donc je vais dans les écoles primaires et auprès d'enfants aussi bien de CP que de CM2, je fais d'abord un travail d'observation. Je passe beaucoup de temps dans les écoles, aussi bien en classe, dans la cour de récréation, mais aussi en sport, au périscolaire, etc. Et j'observe les situations qui amènent du juste ou du pas juste. Alors, quand est-ce que les enfants, dans quelle situation ou avec qui, ils vont se dire « Oh, bah ça, c'est une situation que j'ai trouvée injuste. » Ou alors là, j'ai trouvé qu'il s'est passé quelque chose de juste. Deuxième volet et type de travail que je fais dans ces écoles-là, je réalise des activités auprès des enfants pour leur donner la parole sur ce qu'ils trouvent juste et injuste. Je vous l'ai dit, ça peut être le dessin, ça peut être des petits jeux, ce qu'on appelle des petits jeux sérieux, où ils sont mis dans des petites situations où ils doivent faire des choix. Par exemple, ils doivent choisir combien de bonbons distribuer à des élèves en fonction de la réussite à tel ou tel travail. Est-ce qu'on donne plus à celui qui a mieux fait ? Est-ce qu'on donne plus à celui qui a moins bien fait pour l'encourager ? Est-ce qu'on donne pareil aux deux enfants ? Vous voyez, ils sont mis dans des petites situations, ils doivent faire des petits choix. Et aussi, on fait des discussions, des débats en classe entière sur la justice, l'injustice, les inégalités, etc. Et ça me permet de donner la parole aux enfants dans différents contextes et de manière différente.
Qu'est-ce qui était juste hier et qui ne l'est plus aujourd'hui ?
C'est vrai que les enfants eux-mêmes, ils ont souligné des différences, on va dire, historiques entre le présent et le passé, notamment en matière de type de punition. Qui étaient donnés aux élèves avant et qui ne le sont plus maintenant. Les élèves, par exemple, d'aujourd'hui, ils sont particulièrement choqués, et on peut les comprendre, sur le fait qu'il y a encore quelques années, les punitions corporelles, le fait que le maître ou la maîtresse, le professeur ou la professeure pouvait taper un ou une élève lorsqu'il le jugeait nécessaire, ça choque beaucoup les enfants, et ça se passe plus du tout effectivement comme ça aujourd'hui, où les sanctions corporelles et physiques sont strictement interdites. interdites. Maintenant, on réfléchit de plus en plus à faire des punitions intelligentes. Même, vous savez, les lignes à copier, etc. C'est des choses qui se font de moins en moins et que moi, les écoles dans lesquelles j'ai été, c'est la direction, les enseignantes, etc., essayent d'abolir aussi ce type de punition pour, si punition il doit y avoir, faire davantage réfléchir les enfants sur les situations qui a conduit à leur punition, notamment parfois sous forme de petites fiches philosophiques à remplir, etc.
Pourquoi les punitions d'avant ont changé ?
Bah, je pense que ce qui fait que les punitions elles ont principalement changé, c'est qu'on considère un peu différemment les enfants. C'est-à-dire qu'on les considère aussi de plus en plus, et c'est tant mieux, comme des êtres à part entière, hein, comme les adultes, qu'il faut aussi protéger, auxquels il faut faire attention. Et c'est ce qui fait que, par exemple, on juge que c'est plus du tout possible et que c'est complètement interdit de leur faire physiquement du mal ou de ne pas les écouter aussi. On leur donne de plus en plus la parole, mais c'est encore un long chemin. C'est des progrès qui se font. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des marges de progression.
Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.
Merci à tous et à toutes. La suite arrive sur la conversation. Nous accueillons maintenant Soanie Vartin sur l'équitation qui fait sa chronique.
L'équitation. Déjà, pour passer son galop, il faut avoir un pantalon d'équitation, des bottes d'équitation et un casque. Et tu es prêt pour monter à cheval. Je tiens à dire que ça fait déjà 5 ans et demi que je fais de l'équitation, donc je suis habituée à monter sur des chevaux. Mais si vous avez peur ou vous n'êtes pas habitué à monter sur des chevaux, vous pouvez monter sur des doubles poneys. Et si vous avez encore très peur, vous montez sur des poneys. Après, vous allez aux écuries pour brosser les poneys, les doubles poneys ou les chevaux. Vous pouvez enfin monter sur les chevaux. Ou les doubles poneys ou les poneys. Vous faites un tour de terrain pour réchauffer les poneys ou les doubles poneys ou les chevaux. On peut faire du trot, du galop, du pas, on peut faire des sauts ou des jeux comme Jacques a dit. Et mon moment préféré, c'est quand on fait des balades et qu'on fait du galop dans la forêt. Mais c'est pas le pire. Les chevaux. Des fois, ils sont un peu trop excités, ils font des bêtises, qui dit bêtises, dit chute. Des chutes qui peuvent aller très loin, comme ne plus pouvoir marcher pour 2 jours. Non, je blague. Non, c'est une blague. Tu peux avoir très mal, un bleu, des hématomes, mais ça va partir. Je veux vous raconter ma première chute que j'ai fait. Un jour, j'étais avec un double poney, on faisait du galop, il s'est mis à faire du rodéo, ma selle a tourné. Je me suis retrouvée vers son ventre, je me tenais à son cou. Et là, pouf, j'ai lâché. Je me suis tournée au bon moment. Il a failli m'écraser. J'ai pris du temps à m'en remettre. Dire que, à 9 ans, j'ai failli avoir un grave accident. J'ai pris 3 jours à oublier tout ça. Mais ça m'a pas empêchée de poursuivre mon rêve à l'équitation.
C'est la fin de notre émission « La conversation ». Merci à Habib et Soani, nos chroniqueurs, Maïssa, notre journaliste, Lynn et Ria, nos réalisateurs, réalisatrices, et également à vous, chers auditeurs et auditrices, et à Anne-Cécile Hoth. Merci à Lynn et Ria pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez La Justice à l'école, son évolution d'hier à aujourd'hui, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je suis Adem, votre présentateur. Et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de 6e 3, Collège Lavoisier. Nous sommes...
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de la justice et l'injustice. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons les chroniqueuses Lily et Joy. Nous accueillerons Ensuite, notre invitée Anne-Cécile Hott, géographe et sociologue, qui vient nous parler de la justice des enfants. C'est parti pour la justice à l'école.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nos chroniqueuses Lily et Joy s'installent au studio. Comme aujourd'hui, vous venez nous parler des activités extrascolaires, leurs avantages et inconvénients.
C'est ça, je vais commencer. Mes activités m'apportent beaucoup. Cependant, au collège, nous avons énormément de devoirs et malheureusement, c'est compliqué de toujours garder le rythme. Apprendre le coréen ne m'aide pas pour les cours, mais ça nourrit ma culture générale et je comprends mieux un pays et une culture. La boxe m'apprend à me défendre, ce qui, je l'espère, ne me servira que très peu. Mais surtout, la boxe améliore ma confiance en moi, ce dont je me sers au quotidien. Pour ma part, les activités extrascolaires permettent de déconnecter, d'être dans ma bulle, mais il y a des inconvénients à prendre en compte.
Je fais de la danse le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Déjà, ça me permet de m'améliorer dans mon domaine et de m'épanouir. C'est plutôt bien, car à chaque cours, j'apprends de nouvelles choses, comme le terme « pendant » ou « pendante », qui signifie être parfaitement aligné à une personne ou symétrique. Je fais aussi de la natation le mercredi après la danse et ça m'aide vraiment. Ma santé est plus stable et je nage beaucoup mieux. Mais ça me fatigue beaucoup entre la danse et la natation. J'ai du mal à me concentrer en cours. Pour la danse, je ne vois pas trop d'inconvénients, à part que ça me donne envie de danser tout le temps. Je trouve ça bien d'en faire. Ça permet de déconnecter du collège.
Merci Joy et Lily. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis.
D'écouter Voilà de Barbara Pravi. L'émission La justice à l'école continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Solane. Comment ça va?
Ça va, ça va.
Vous recevez Anne-Cécile Hott. Vous allez nous parler de la justice à l'école, son évolution d'hier à aujourd'hui.
Oui, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous faites précisément dans les écoles?
C'est une bonne question à laquelle je suis ravie de répondre. Donc moi, effectivement, je fais de la recherche en géographie et en ce moment en sociologie et je m'intéresse à ce que les enfants trouvent juste et injuste, donc leur perception de la justice et de l'injustice. Et je vais dans les écoles et je fais, on pourrait dire, deux grosses choses différentes. La première, c'est que j'observe. ce qui se passe à l'école, en classe, à la cantine, en cours de récréation, en cours de sport, etc. Et je note, je regarde quand est-ce que des situations de justice et d'injustice interviennent, quand est-ce que les enfants trouvent quelque chose de juste et d'injuste. Et en plus de ce travail d'observation, le deuxième gros bloc du travail que je fais dans les écoles, c'est faire des activités avec les enfants sur la justice et l'injustice. Donc ça peut paraître... être par exemple d'abord une activité de dessin où je demande aux enfants de dessiner quelque chose de juste et d'injuste pour eux. C'est des petits jeux sérieux où je mets les enfants dans des petits dilemmes et où ils doivent faire des choix. Pour vous donner un seul exemple, je leur dis que là, on est dans une situation fictive où la maîtresse doit distribuer des bonbons à des élèves. Il y a des élèves qui ont très bien fait leur travail, d'autres qui ont moins bien réussi. Est-ce qu'elle doit donner pareil aux deux enfants? Est-ce qu'elle donner plus de bonbons pour le récompenser à celui qui a mieux fait, plus de bonbons à celui qui a moins bien fait pour l'encourager? Vous voyez, je demande aux enfants de faire leur propre choix. Et on fait aussi des grands débats, des grandes discussions en classe entière sur ce que les enfants trouvent juste et pas juste.
Et comment les élèves ressentent-ils le fait que ça ne soit pas eux qui fassent le règlement ?
Le règlement intérieur de l'école, par exemple, eh ben, vous voyez, ça, c'est effectivement des choses dont les enfants que je rencontre parlent. Le fait de ne pas forcément avoir voix au chapitre dans les règles et règlements qui sont mis en place à l'école. Et ils aimeraient bien, eux, pouvoir davantage participer aux règles de la vie scolaire, que ce soit dans le temps scolaire ou aussi dans le temps périscolaire, notamment à la cantine. Il y en a qui parlent notamment et qui aimeraient bien à l'école primaire, et ça n'existe pas encore dans leur école, avoir des petits systèmes de délégués par classe où certains enfants pourraient faire remonter les envies, les avis des enfants auprès des adultes et des enseignants. Et comme ça, ils pourraient participer aussi plus qu'ils ne le font déjà à la vie de l'école, et leur voix pourrait être entendue.
Mais est-ce qu'il y a des conseils d'élèves dans toutes les écoles ?
Eh bien non. Parce que vous voyez, bonne remarque, dans les écoles, moi, où je vais faire du terrain en ce moment, qui se situe près de Lille, dans les Hauts-de-France, il n'y a ni délégué dans les classes, ni conseil d'élèves, rien de ce genre. Donc ça ne veut pas dire que les enfants ne sont jamais écoutés, parce que les équipes enseignantes sont quand même bienveillantes, et s'ils veulent leur parler, notamment en cours, pendant la récréation, etc., ils peuvent, mais il n'y a pas de structure mise en place pour vraiment écouter la voix des élèves ou les faire participer aux décisions, notamment sur les règlements.
Mais comment les punitions faites par les professeurs ont changé ? Est-ce qu'elles sont devenues plus strictes, plus violentes, enfin moins violentes depuis avant ?
Oui, par rapport à il y a quelques années, il y a quand même eu un gros changement, hein, et les élèves, ils en parlent eux-mêmes. C'est le changement qui consiste à avoir aboli complètement tout ce qu'on appelle les châtiments corporels. Les élèves que moi j'ai rencontrés mentionnaient souvent l'école d'avant, hein, l'école d'antan, de leurs parents, surtout de leurs grands-parents, et ils étaient très choqués, à raison sur le fait que leurs grands-parents, par contre, racontent encore souvent qu'ils se faisaient taper sur les doigts avec une règle, etc., par leurs instituteurs, leurs institutrices, leurs professeurs. Et ça, c'est complètement interdit maintenant, parce que la place accordée aux enfants dans la société n'est plus la même non plus, et on essaye évidemment de les protéger davantage, de faire attention à eux et de réfléchir aussi à des punitions plus intelligentes qui permettent aussi de leur apporter quelque chose et surtout de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été punis. Et par exemple, dans l'école où j'ai été ou dans les écoles où j'ai pu aller, parfois, plutôt que, par exemple, faire copier 100 fois telle ligne, etc., les enseignants réfléchissent à faire écrire un petit débat philosophique autour de la punition ou du problème qui a été soulevé, pour que ça apporte quelque chose aussi aux élèves, la punition.
Mais pourquoi ces professeurs d'antan trouvaient-ils juste de recourir à cette violence ?
Alors ça, c'est sûr que c'est assez compliqué, hein, nous, à notre place d'aujourd'hui, de comprendre comment on pouvait autoriser ça et comment c'était possible, et comment même les adultes pouvaient avoir envie de donner ce genre de punition. C'est vrai qu'il faudrait, il faudrait les interroger. C'est un bon sujet de recherche, hein, d'interroger les anciens professeurs et les anciens enseignants sur pourquoi et ils mettaient en place ce genre de punition. Je pense que c'est vraiment lié au fait aussi qu'il y a des choses qui étaient autorisées, hein, que ce soit dans la sphère de l'école, mais aussi dans la sphère de la famille et de la maison, qu'on n'autorise plus du tout aujourd'hui. Maintenant, on est beaucoup plus attentif au bien-être des enfants, à leur protection, même s'il y a encore des progrès à faire sur ce point-là. Donc, on est plus strict aujourd'hui, on veille davantage, effectivement, à protéger les enfants, notamment des adultes et des violences qu'ils peuvent commettre.
Merci.
C'est la fin de notre émission La justice à l'école. Merci à nos chroniqueuses Lily et Joy, à notre journaliste Solane, à notre invitée Anne-Cécile Hoth.
Merci à vous.
Et merci à vous, les auditeurs. Merci à Lucas et Lucille pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.